Bonjour à tous et bienvenue sur RCF Calvados Manche pour votre rendez-vous mensuel avec Monseigneur Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux. Monseigneur Boulanger, bonjour.
Bonjour.
Et tout d'abord, bonne année à vous et à tous nos auditeurs.
Merci et bonne année bien sûr aux auditeurs.
Alors Monseigneur, ce début d'année, c'est l'occasion de regarder un petit peu aussi ce qui s'est passé en 2018. C'est une année qui fut riche en événements très saints, les fraternités locales missionnaires, les pèlerinages, des rassemblements, l'actualité aussi récente des Gilets jaunes. Quel regard vous portez-vous sur 2018? Quels événements retenez-vous?
C'est toujours difficile de faire des choix dans les événements qu'on a vécu. C'est d'abord assumer ce quotidien. Je pense que nos contemporains aujourd'hui ont du mal à donner sens au quotidien. On vit un peu pour l'extraordinaire. Or, je dirais, la vie se réalise d'abord dans l'ordinaire des jours. Mais on sent aussi que c'est important d'avoir des temps forts. Et dans l'Église, comme dans la société, on a besoin aussi de rassemblements. Je pense qu'un certain nombre de pèlerinages, il n'y a pas uniquement que celui de Lourdes, bien sûr. Hein. Nous sommes allés en Afrique cette année avec une soixantaine de pèlerins au Bénin. Je pense que ce fut un moment très fort. Moi-même, je suis retourné prêcher une retraite aux prêtres au Rwanda. C'est aussi un moment important. Donc il y a ce lien, vous sentez bien, avec d'autres réalités ecclésiales. Et puis, il y a aussi, bien sûr, les temps forts dans notre diocèse. Nous avons vécu très saints, nous avons vécu des pèlerinages aussi avec les jeunes, que ce soit à Lourdes, à Rome et à Assise.
Et puis le rassemblement du mois de mai aussi.
Et alors, nous avons vécu vraiment un moment fort qui a été ce rassemblement à Douvres, oui. Où nous avons pu prier pour les vocations, pour être avec ces jeunes, et qu'ils puissent aussi prendre un peu de recul et découvrir qu'ils ne sont pas seuls, mais prendre un peu de recul sur leur vie pour découvrir ce à quoi le Seigneur les appelle, Dieu les appelle. Et puis en même temps, on peut dire que nous avons vécu aussi cette mise en place des fraternités locales missionnaires. Ça, c'est le terrain lui-même. On sent bien qu'aujourd'hui, dans nos paroisses, il est important de favoriser ces rencontres entre chrétiens où on peut se ressourcer, on peut partager, on peut prier ensemble. C'est ça les fraternités locales missionnaires qui peu à peu se mettent en place. Il faut être modeste, cela va demander beaucoup de temps, mais oui. En même temps, il y a un désir chez beaucoup de catholiques dans notre diocèse de se retrouver en petite fraternité.
Alors la grande question, c'est, et pour 2019, qu'en attendez-vous?
Je pense que c'est d'abord, vous savez, nous mettons notre confiance dans celui qui nous promet l'avenir, nous les chrétiens. Oui. C'est le Christ, c'est l'Esprit Saint. Il faut pas penser que nous avons tout en main. Faut être assez humble pour dire, c'est d'abord l'affaire du Seigneur, on est là à son service. Alors bien sûr que nous avons des projets, que ce soit au niveau de notre diocèse, que ce soit un pèlerinage, voyez, partir en Jordanie avec des pèlerins. Bien sûr, pour les jeunes, il y a énormément de temps forts qui sont prévus durant cette année. Rome, Assise, comme d'habitude. Puis en même temps, un temps fraternel aussi avec nos frères prêtres. Le projet, c'est de retrouver aussi, pouvoir visiter, rencontrer chacun des prêtres pendant le premier semestre, et puis le deuxième semestre, sans doute aller à la rencontre des pôles missionnaires, des équipes pastorales dans les paroisses, etc. C'est à nouveau reprendre un peu son bâton de pèlerin pour aller à l'écoute des diverses réalités que vive notre diocèse.
En tout cas, c'est un beau projet, effectivement, pour 2019, d'aller à la rencontre du terrain. Monseigneur, vous avez célébré la messe du jour de Noël à la maison d'arrêt et celle de l'Épiphanie à la prison de Caen. Pourquoi particulièrement ces lieux, Monseigneur?
Alors, vous sentez bien qu'à Noël, il y a des dimensions un petit peu particulières. Des personnes vivent douloureusement cette fête de Noël. Prenons la maison d'arrêt. Hein, ce sont des personnes qui souvent sont seules, n'ont plus de lien avec leur propre famille, ont vécu sans doute des choses douloureuses ou ont commis aussi des actes répréhensibles. Donc l'impression d'être un peu abandonné et là aussi isolé. C'est toujours la maison d'arrêt, comme d'ailleurs après il y a l'épiphanie, hein, le centre de détention. Je pense que ceux qui connaissent ces situations se sentent marginalisés dans la société. Et certains le vivent avec une grande culpabilité, l'absence de pardon, une vie qui est brisée, donc une certaine désespérance, hein. Ça, c'est indéniable. L'épiphanie est un peu différente.
Oui, vous avez un petit peu plus de temps.
Oui, on a beaucoup plus de temps. Là, on partage la galette des rois. Enfin, c'est.
Oui, il y a plus de convivialité aussi.
C'est beaucoup plus de convivialité.
Alors, justement, c'est l'occasion d'échanger avec les détenus. Et
oui, souvent, d'abord, ils sont heureux que l'évêque vienne les rencontrer.
Oui.
Il y en a qui veulent partager, qui veulent dire souvent, c'est prier pour moi, hein, prier pour telle situation. Je vois aussi qu'ils n'oublient pas leur famille, même s'ils se sentent abandonnés. Il y en a qui me disent, ben voilà, je ne vois plus ma fille, je ne vois plus ma femme, je vois plus mes parents. Hein. Donc il y a des ruptures qui sont douloureuses et ce n'est pas tellement pour eux qu'ils demandent de prier. C'est ça qui me surprend. C'est qu'ils demandent surtout de prier pour ceux qui leur sont chers, hein, mais avec qui n'ont plus de lien. Ils portent aussi la maladie d'une maman ou d'autres membres. Hein. Ça, c'est souvent ce dont ils me parlent. Ils parlent très peu d'eux-mêmes, oui. Hein, de leur situation, ou quand ils vont quitter, hein, la maison d'arrêt, là, ils en parlent plus volontiers. Il y a l'inquiétude devant l'avenir, ce qu'ils vont devenir. En même temps, cette joie d'avoir encore quelques mois à faire, et puis là, ils font des projets.
Trouver la liberté.
Et donc, voilà, ce dont ils partagent plus facilement, puisque ceux qui sont au centre de détention de Caen, il y en a qui sont là depuis longtemps. Hein, donc, oui. Pour eux, c'est une situation déjà assez différente de ceux qui sont à la maison d'arrêt.
Alors, vous avez aussi célébré la messe du jour de Noël à l'établissement public de santé mentale de Caen. Là encore, vous voulez vous faire proche de ceux qui souffrent. Qu'est-ce que vous retirez aussi de cette rencontre qui est avec un public là différent de celui de la maison d'arrêt ou
je dirais oui,
mais
c'est un autre
ça reste
public.
Un autre public en fragilité.
C'est
aussi.
Beaucoup plus fragile, les fragilités psychologiques, hein, fragilités oui. psychiques. À la fois pour celui qui est extérieur, c'est douloureux, mais en même temps, ces personnes, ben, je dirais, vivent dans leur univers un peu. Mmh. Et c'est aussi une joie pour elles de chanter « Venez divin Messie » ou « Il est né le divin enfant ». Vous voyez, c'est pour eux quelque chose qui rappelle leur enfance. C'est un autre contexte. Et en même temps, par exemple, quand on est en pleine dépression, les larmes, que c'est douloureux, je veux dire, de ne pas arriver à remonter la pente. Donc on a à la fois des personnes qui sont là depuis un certain temps. Il faut remercier aussi hein, toute l'équipe de l'aumônerie qui connaît bien ces personnes, qui les rassemble régulièrement, ceux qui viennent les visiter. Et puis, penser aussi que, oui, il y a la joie. Là, il y a plutôt une joie toute simple, hein. Il y a la crèche, il y a l'un d'entre eux ou d'entre elles qui va porter le petit enfant Jésus, hein, le mettre dans la crèche. Et c'est une joie profonde. Donc on est quelques-uns, c'est une petite communauté, très fragile, mais ça évoque aussi les fragilités que Jésus a rencontrées hein, autour de lui. Ce n'était pas merveilleux, la crèche de Bethléem, hein, la mangeoire d'animaux. Voilà, donc là, je dirais, on est peut-être à la limite plus proche encore de ce que Jésus a vécu à Bethléem. En même temps, ces personnes, ben, oui, elles sont assez spontanées, elles vont aussi souvent dire merci, elles vont aussi parfois avoir des larmes, bien sûr, mais c'est un moment un peu privilégié, ce jour de Noël au matin, hein, où elles peuvent vivre ce temps fort. Ce n'est pas la grande foule, hein, bien sûr, mais moi j'admire toujours les personnes qui sont là, qui viennent aussi les entourer et qui veulent fêter Noël avec elles.
Le 17 janvier, Monseigneur, vous allez rencontrer les journalistes d'information religieuse, des médias, de la presse écrite et audiovisuelle à l'occasion de la fête de Saint-François de Sales, patron des journalistes. Alors, quelles sont les relations du diocèse avec les journalistes? Je dirais, de quoi est-ce que vous allez parler en même temps?
Je crois qu'elles sont bonnes, hein, nous nous connaissons bien. C'est important de faire confiance et aux journalistes. Hein. Je crois que on n'a pas à dire ce qu'ils ont à dire. Il faut les rencontrer, les écouter, qu'on puisse partager tout simplement ce qu'on vit, ce qu'on a envie de communiquer. Et ce sont eux, les communicants, qui diront à leur manière, hein, ce qu'ils ressentent pour le public auquel ils s'adressent. C'est indéniable que chaque radio, chaque télévision a son propre public, hein, et donc ils le disent en fonction de leur public.
Hein. Oui.
Donc les, il y a aussi le père Berthoud et vous-même qui êtes en lien avec les médias, et Dieu sait si c'est important d'avoir des rencontres régulières. Et je crois qu'ils sont toujours heureux de venir partager, hein, aussi avec à l'évêché, je dirais un temps gratuit.
Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un temps gratuit où ils peuvent parler aussi de leur profession, de ce qu'ils vivent, voilà. Et il n'y a pas forcément de message précis qui leur est délivré. En tout cas, il n'y a pas d'intention derrière d'avoir des articles ou des reportages.
Voilà, c'est plutôt un moment gratuit. Ils ont toujours besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le diocèse pour avoir un scoop. Tout ça, ça fait partie, c'est normal.
Du métier.
Hein, ça fait partie du métier. Oui. Et en même temps, je trouve que c'est intéressant de pouvoir les écouter, parce qu'eux sont aux prises aussi avec les réalités de notre société. Pensez les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a de tout sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas de cadre pour ces nouvelles réalités, hein, culturelles, médiatiques, sociétales. Et c'est ça le grand problème. Donc aujourd'hui, on voit bien l'enjeu pour ceux qui veulent informer, pour qu'on garde une certaine objectivité, une certaine vérité aussi. Voilà. Donc je pense que nous avons à prier, hein, pour ceux qui sont dans les médias, parce que ce sont eux aussi qui donnent le ton un peu à notre société, qui donnent le moral, ou au contraire qui vont mettre de la sinistrose. Et ce qu'ils vont dire, si uniquement des mauvaises nouvelles pendant un journal télévisé, le moral des Français il va moins bien. Donc il faut toujours doser, en sachant qu'il y a des mauvaises, mais aussi des bonnes nouvelles à faire connaître. Donc les relations, je pense que sont bonnes. Je tiens à remercier les journalistes qui sont là, bien sûr toute la presse, hein, qui est là dans notre département. Puis je crois que quand on se fait proche d'eux, ils savent aussi, hein, à leur manière, dire ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont reçu, hein, de notre information, surtout l'information religieuse.
Oui, et on peut dire en tout cas que dans le diocèse, l'information religieuse, elle est bien traitée et qu'on est bien suivi par l'ensemble de la presse, voilà, que ce soit bien sûr ici sur l'antenne d'RCF, mais aussi avec les autres médias.
Oui, je pense que l'important, et c'est ce contact régulier. Ce n'est pas uniquement de contacter un journaliste quand on a
besoin
de dire quelque chose, c'est d'abord d'être en relation. Et c'est cette relation de confiance, je pense, qui est fondamentale. Et donc, évidemment, on aimerait qu'ils disent tout ce qu'on a peut-être voulu dire. Je crois que tout message, il est toujours un peu trahi. Faut accepter avec humilité, je dirais, que de laisser l'autre pouvoir exprimer ce qu'il a compris, ce qu'il a reçu, même s'ils ont une culture souvent chrétienne limitée, mais ils vont le dire avec leurs mots à eux, leurs mots du grand public, et c'est ce que le public va comprendre.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses, te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, tout mon être.
CF. Cette semaine dans l'actu du diocèse avec le Monseigneur Boulanger pour son émission mensuelle. Le 20 janvier, Monseigneur, vous emmenez plusieurs dizaines de pèlerins du diocèse à Pontmain dans le Nord Mayenne. Alors c'est la deuxième année que le diocèse organise ce pèlerinage à Pontmain. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette apparition ?
Oh ben oui, c'est la guerre de 1870. Hein.
Oui.
Évidemment, nous sommes peut-être un peu loin. Quand j'étais dans l'Orne, l'Orne touchait bien sûr la Mayenne. Mmh. Je me souviens toujours d'avoir lu, en tout cas dans la correspondance familiale, que ce soir-là, hein, ou là où la Vierge va apparaître à Pontmain, le 17 janvier, que Madame Martin, la maman de Sainte Thérèse, priait. Puisque on était envahi par les Prussiens, hein, c'était la guerre de 1870, c'était atroce, il y avait des atrocités. Charles de Foucault raconte ce qu'il a vécu à Strasbourg, comment il a dû s'enfuir, les maisons brûlées, les viols, etc. Hein. Et donc les Prussiens arrivaient, ils étaient présents à Alençon. Alençon était envahi par les Prussiens à l'époque. Ils allaient arriver jusque Laval, hein,
oui.
Franchir la Mayenne, et c'est là qu'il y a eu, on a perdu l'Alsace et Lorraine, mais c'est là qu'il y a eu, d'une certaine manière, la guerre a été stoppée, malheureusement, nous avons perdu cette guerre, mais en tout cas, la boucherie s'est arrêtée, hein, et les Boches, comme on disait à l'époque, hein, les Prussiens, n'ont jamais franchi la Mayenne, Et au fond, ce que la Vierge demande, c'est surtout la prière des enfants. Je pense que c'est Marthe Robin qui le redira, mais que le Seigneur écoute les enfants, leur prière. Et quand Marthe dit prier, Vierge Marie dit prier, prier mes enfants, c'est sans doute grâce aussi à la prière de ses enfants que cette boucherie a été stoppée. Et en même temps, je relis, bien sûr, avec Sainte Thérèse, sa maman. C'était, on peut dire, les évêques, à l'époque, avaient demandé à tous les catholiques, en France, de prier pour que la guerre cesse, de prier la Vierge Marie. Ce qui est surprenant, c'est que la Vierge, elle apparaît dans notre région, d'une certaine manière, à Pontmain.
Oui. Voilà. Oui. Alors, donc, vous serez présent, vous présiderez cette journée du 20 janvier, donc la journée anniversaire, vous l'avez rappelé, c'est le 17 janvier, mais le 20 janvier, c'est le dimanche qui suit. Il y aura bien sûr des pèlerins du diocèse, mais des pèlerins qui viendront de tout l'Ouest, et même de la région parisienne, vu que c'est le week-end. Qu'est-ce que vous allez dire, peut-être plus particulièrement à ces centaines, ces milliers de personnes même qui seront présentes ce dimanche matin?
La petite Thérèse, Sainte Thérèse, disait que notre maman du ciel, on a une mère sur la terre, mais on a une maman au ciel. Elle appelait la Vierge Marie sa maman. Voyez, oui. Je pense que celui qui prie la Vierge Marie ne désespère pas. On a tellement de témoignages avec nos pèlerins qui viennent à Lourdes, les malades, mais aussi tant de personnes qui portent des choses très lourdes. Voilà, je pense qu'il reste au fond du cœur de beaucoup de personnes cette confiance profonde en la Vierge Marie. C'est ça d'abord que je voudrais partager à tous ces pèlerins qui seront là, qu'ils continuent de prier la Vierge, que ce soit Notre-Dame de Pontmain ou Notre-Dame de Lourdes, peu importe le titre. Mais chaque fois, c'est vraiment notre mère qui est au ciel, c'est notre maman à qui on peut se confier, et surtout qui nous conduit vers son Fils. Et combien de personnes ont peu de lien avec le Christ en tant que tel, parce qu'il leur paraît tellement loin, mais c'est grâce à la Vierge Marie qui se rapproche du Christ. Et une maman, une mère n'a qu'un seul projet, c'est de nous montrer ses enfants. Marie n'a qu'un seul projet, c'est de nous faire rencontrer son Fils, Jésus. Et c'est donc aussi ce que beaucoup de pèlerins redécouvrent, et c'est sûr qu'à Pontmain, comme à Lourdes, comme ailleurs, beaucoup de pèlerins retrouvent confiance dans la vie et ne désespèrent pas.
Le 27 janvier, vous rencontrez toute la journée les 38 catéchumènes qui se préparent à recevoir les trois sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation et Eucharistie. Alors, Monseigneur, que représente pour vous cette rencontre? Ce sera la première rencontre avec l'ensemble des catéchumènes du diocèse.
C'est toujours un bain de jouvence, même s'ils ont 50 ans. Enfin, encore, la moyenne d'âge des catéchumènes est autour de entre 35 et 40 ans, donc voyez, c'est quand même une communauté assez différente de celle que nous connaissons dans nos assemblées. C'est toujours une joie de voir ces personnes, ces adultes ou jeunes adultes. Il y a une soif spirituelle qu'on aimerait retrouver chez beaucoup de chrétiens. Et du coup, il y a une attention. Il y a quelque part une joie intérieure qu'ils veulent vous partager, en disant que c'est souvent des personnes qui cherchent depuis un certain temps. Il y en a qui cherchent depuis leur enfance presque, en disant qu'ils souhaitaient être baptisés, que les parents n'ont pas voulu, etc. Il y a une quête de sens aussi. Ils ont enfin trouvé un sens à leur vie. C'est ça la joie profonde. Et puis, il y a cette rencontre avec le Christ, l'Esprit Saint. Il y a une paix intérieure. Ils n'ont pas toujours les mots pour dire. En même temps, il y a un combat spirituel. Ils savent que ce n'est pas facile de devenir chrétien, surtout dans notre société. Certains ont peu de liens avec leur famille à ce niveau-là. Certains vont à peine le dire dans la famille, puisqu'il y en a que dont les parents, la famille ne viendra pas à leur baptême. Mais en même temps, ils ont trouvé des frères et des sœurs dans la foi. L'équipe d'accompagnement, souvent, ils découvrent ce que sont des chrétiens. Et donc, pour eux, cette journée, c'est toujours un temps fort. Et puis, il y a des larmes, Il y a des gens qui expriment ce qu'ils ont vécu, et c'est parfois très lourd, hein, de ce qu'ils partagent, mais en même temps, c'est toujours un moment un peu privilégié, parce que il y en a qui ont vécu vraiment des moments de galère dans leur vie, et ils partagent, ils aident aussi peut-être d'autres à réaliser que la vie n'est pas toujours facile pour certains.
Alors, un moment particulier dans cette journée, c'est en fin de journée, a lieu le rite de l'Effeta. Ça signifie « ouvre-toi ». Qu'est-ce que ça signifie pour vous, et puis je dirais aussi pour les catéchumènes?
Alors, on fait le signe de la croix au niveau des oreilles, et sur la bouche, vous voyez, et le cœur. Hein. Donc, les oreilles, ben, c'est que nos oreilles s'ouvrent à la bonne nouvelle, et que à la bonne nouvelle de Dieu, hein, la parole de Dieu, que nous soyons par notre bouche, que nous soyons témoins de cette bonne nouvelle, que nous annoncions plutôt des bonnes nouvelles que des mauvaises nouvelles, hein, que nous soyons vraiment, ça soit parole de l'Évangile que nous disions, que ce soit plus proche de l'Évangile que des mauvaises nouvelles. Et puis le cœur, c'est, si on le fait, parfois on le fait, c'est pas obligatoire, hein, c'est que vraiment dans notre cœur on aime le Seigneur, afin que on lui dise que nous l'aimions, que nous sommes là pour lui rendre cet amour qu'il nous donne et dont beaucoup ignorent qu'ils sont aimés de Dieu.
Eh bien, merci, Monseigneur. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel entretien avec Monseigneur Boulanger. Au revoir.